Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est une nouvelle étude intitulée « Premièrement, un vrai chrétien » et « Deuxièmement, la religion est une affaire strictement personnelle ». Chers amis, les uns disent qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de démêlé avec la police. Et les autres croient qu'un chrétien, c'est tout homme qui a été baptisé et enterré religieusement. Mais laissez-moi vous dire ce qu'est vraiment un chrétien. Tenez-vous bien. Voyez-vous, un chrétien est un homme qui peut dire du fond de son cœur « Je crois que Jésus-Christ est vraiment le vrai Dieu, engendré par le Père de toute éternité, mais aussi vrai homme de vrai homme, né de la Vierge Marie, et mon Seigneur, c'est celui qui m'a sauvé. » Moi, triste pécheur, perdu et condamné. Monsieur le président directeur général, c'est vous le pécheur perdu et condamné. C'est ce qu'avait osé dire un pasteur. Et il a dit cela au président directeur général. Et ce dernier acquiesça d'un signe de tête, tout de même. Cela, il le comprenait et il était prêt à l'admettre. Bon, reprit donc le pasteur et il dit, « Voyez-vous, Jésus-Christ m'a sauvé, car moi aussi, je suis un pécheur perdu et condamné qui m'a acquis et affranchi du péché. C'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a affranchi de la mort et de la puissance du diable. Oui, monsieur le président directeur général, voyez-vous, Jésus-Christ m'a affranchi de la puissance du mal. » Et ce dernier hocha la tête. Et il avait aussi quelques notions quand même sur tout cela. Et le pasteur poursuivit, « Voyez-vous, Christ m'a acquis et il m'a affranchi, non par de l'argent ou de l'or, mais par son précieux sang qu'il a versé à la croix pour moi, mais aussi pour vous. » Par ses souffrances et par sa mort imméritée, pour que je puisse lui appartenir. Vous m'entendez bien, seul celui qui pourra dire « J'appartiens à Jésus-Christ » est vraiment son enfant, sauvé pour l'éternité. Il m'a affranchi du péché et de la mort, et de l'enfer, et ceci par son propre sang, et j'en ai la certitude, car seul celui-là est donc devenu chrétien. Monsieur le président directeur général, c'est tout simplement cela. Et il y eut un moment de silence dans le bureau du président directeur général. Et puis ce dernier me demanda, « Monsieur le pasteur, comment puis-je y arriver ?» Je lui ai répondu, c'est ce que dit le pasteur, je lui ai répondu, « Eh bien tout à l'heure, voyez-vous, votre secrétaire m'a appris que vous alliez partir en vacances. Cet après-midi même, « je vous enverrai un nouveau testament et vous l'emporterez et vous le lirez chaque jour, donc simplement un chapitre, et vous pouvez commencer, et ça sera très important, par l'évangile de Saint Jean. Et c'est ainsi que vous y arriverez à comprendre ce que veut dire devenir un véritable chrétien. En somme, la position chrétienne décrite dans le Nouveau Testament comporte la double certitude qu'objectivement, les vérités bibliques sont fiables et que subjectivement, je peux me les approprier par la foi et être sauvé. Avez-vous une telle certitude, chers amis? Voyez-vous, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas vivre si je n'avais pas l'assurance d'avoir été accepté par Dieu. J'ai demandé un jour à un jeune homme, « Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ ?»« Oui, » me répondit-il. « Et sais-tu qu'il t'a accepté et que tu lui appartiens ?»« Je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai encore tellement à lutter. » « Eh bien, lui répliquai-je, moi, je ne pourrai pas vivre ainsi. Il faut que j'aie la certitude d'être son enfant. Et celui qui se dit chrétien, mais ne sait même pas si Dieu existe, tout en sachant au centime près quelle est sa situation financière, n'est en réalité pas chrétien du tout, car d'après le Nouveau Testament, il n'est chrétien que celui qui peut affirmer de tout son cœur « Je sais que Christ est devenu le maître de ma vie ». Laissez-moi illustrer cela à l'aide d'une petite anecdote que vous connaissez peut-être déjà. Le général von Wieban raconte qu'un jour, au cours d'une manœuvre, il avait traversé la forêt à cheval et s'était fait un accroc à son uniforme en restant accroché à un arbre. Pour un général, il est contraire aux convenances de se promener ainsi. Arrivé le soir au cantonnement, il vit quelques soldats assis sur un muret. Il arrêta son cheval et les interpella. « Y a-t-il un tailleur parmi vous ?» L'un d'eux se précipita vers lui, se mit au garde-à-vous, et répondit « Oui, mon général ». Le général von Wieban lui ordonna « Venez de suite dans ma chambre à l'Agneau d'or et raccommodez-moi mon uniforme. » « Mais je ne sais pas coudre, mon général. »« Quoi ? Vous ne savez pas coudre ? Vous êtes pourtant tailleur ?» « Excusez-moi, mon général, je m'appelle tailleur, mais je ne suis pas tailleur. » En racontant cette anecdote, le général von Wieban fait le commentaire suivant. « Il en va de même pour la plupart des chrétiens. En remplissant une formulaire, il marque sous la rubrique « religion »,« chrétien ». En réalité, il devrait plutôt écrire « je me dis chrétien, mais je ne le suis pas ». Quelle situation déplorable et combien dangereuse, puisque on n'est de ce fait pas du tout être certain d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé simplement parce que peut-être on se croit chrétien. Voyez-vous, il me faut donc faire un pas de plus et poser encore une question. Si vous désirez obtenir cette certitude, je vous conseillerais d'abord de la demander à Dieu et puis de vous mettre à lire régulièrement le Nouveau Testament, un quart d'heure par jour, comme je l'ai déjà mentionné, en commençant par l'évangile de Saint Jean. Je dois cependant faire une remarque importante, ce n'est pas par la raison, mais par la conscience que l'on parvient à la certitude de la foi. Voyez-vous, de nos jours, à chaque fois que j'entame une conversation sur la foi chrétienne, les gens me disent « Monsieur le pasteur, vous savez, moi, je ne peux pas croire. Il y a trop de contradictions dans la Bible. » Comment ? Des contradictions ? Oui. Elle raconte par exemple qu'Adam et Ève eurent deux fils, Caïn et Abel. Or Caïn tua Abel. Il ne resta donc plus que lui. Mais la Bible dit qu'il partit dans un pays éloigné et que là il chercha une femme. Si lui et ses parents étaient les seuls habitants de la terre, il ne pouvait donc pas aller ailleurs à la recherche d'une femme. Monsieur le pasteur, voyez-vous, cela ne colle pas. Vous êtes-vous aussi, chers amis, heurtés à cette objection? J'ai un peu l'impression que c'est l'argument clé dont se servent les hommes et les femmes pour échapper à Dieu. Généralement, je leur réponds de la façon suivante. Ce que vous dites là est fort intéressant. Voici une Bible et j'aimerais que vous me montriez où il est dit que Caïn se rendit dans un pays éloigné pour y prendre femme. Il se met alors à rougir et je continue. Si vous rejetez la Bible grâce à laquelle des milliers d'hommes sensés sont parvenus à la foi, si vous pensez être plus intelligent qu'eux, vous avez certainement dû étudier la Bible à fond. Donc, montrez-moi le passage où cela se trouve. Il s'avère qu'ils ne le savent pas du tout. Et je leur montre, moi, le texte de la Genèse. Et là, voyez-vous, il est dit « Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Et là, Caïn connut sa femme. Il l'avait donc amenée avec lui. Et qui était-elle ? Eh bien, voyez-vous, dans le contexte, il est dit qu'Adam engendra des filles et des fils au pluriel. Caïn a donc épousé une de ses sœurs. Il est d'ailleurs dit expressément, et c'est dit dans la Bible, que Dieu a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. De ce fait, il a fallu qu'au tout début, les frères et sœurs se marient entre eux. Mais plus tard, Dieu a interdit les mariages consanguins. Tout cela devient donc clair. Bon, je tire donc mes conclusions. Vos objections s'écroulent comme un château de cartes. Et ce que mon homme va maintenant s'ouvrir à l'Évangile? Jamais de la vie. Il a déjà une nouvelle objection sur les lèvres. Oui, mais dites-moi un peu, monsieur le pasteur. Et cela continue. Il est évident que même si je répondais à 10 000 questions du même genre, cet homme ne modifierait en rien sa position. La foi ne jaillit pas d'un raisonnement, fût-il le plus logique et le plus convaincant, mais la foi, elle jaillit d'une conscience troublée. Voyez-vous, ce sont les gens qui ont une mauvaise conscience, qui se disent, par exemple, « Ça ne tourne pas très rond dans ma vie. Je n'arriverai jamais à m'en sortir. » Ce sont ces gens-là qui parviennent à la foi et au Sauveur. Et la raison suit ensuite. Un jour, j'entrai dans une chambre d'hôpital où 10 hommes étaient alités. L'accueil fut cordial. « Bonjour, monsieur le pasteur. C'est vraiment gentil à vous d'être venu nous voir. Mais nous avons une question à vous poser. »« Très bien. Je vous écoute. » Du premier coup d'œil, je sus qu'ils allaient me tendre un piège. Et l'un d'eux, sous le regard attentif de ses camarades, me demanda donc « Vous croyez sans doute en la toute-puissance de Dieu ?»« Oui, j'y crois. » »« Voici donc ma question. Votre Dieu peut-il créer une pierre qui soit tellement lourde qu'il ne puisse lui-même la soulever? Vous avez compris l'astuce. Que je réponde oui ou non, la conclusion était la même. Dieu n'est pas tout puissant. Je réfléchis un instant, me demandant si je devais lui expliquer cela. Mais comme cela me semblait trop bête, je lui posai à mon tour une question. « Jeune homme, avant de vous répondre, j'aimerais savoir si cette question vous a causé des nuits blanches. »« Des nuits blanches ? » fit-il d'un air ébahi. « Celle-ci, en tout cas, m'a pas posé des nuits blanches. » Je continuais. Voyez-vous, je dois ménager mes forces et je ne peux répondre qu'aux questions qui privent les gens de leur sommeil. Jeune homme, ayez la bonté de me parler de ce qui vous empêche de dormir. Sa réponse ne se fit pas attendre. C'est le problème de ma petite amie. Elle est enceinte et nous ne pouvons pas encore nous marier. Bon, si c'est cela qui vous cause des nuits blanches, parlons-en un peu. Si vous voulez, opina-t-il d'un air étonné, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la religion? L'histoire de la pierre, lui répondis-je, n'a en effet aucun rapport avec le christianisme. Mais il n'en est pas du tout de même pour l'affaire de votre petite amie. Là, vous avez commis une grande faute. Vous avez tout simplement transgressé le commandement de Dieu en séduisant cette jeune fille. Et à présent, vous êtes en train de vous casser la tête pour savoir comment vous tirer d'affaire en commettant peut-être un péché encore bien plus grave. Voyez-vous, vous vous êtes embourbé dans la mauvaise voie. Votre seule chance de salut est de vous tourner vers Dieu et de vous repentir et de lui dire « J'ai péché ». À ce moment-là, le Sauveur pourra faire quelque chose pour vous. Le jeune homme m'écoute attentivement et soudain, ses yeux s'ouvrent. Jésus-Christ s'intéresse au poids qui pèse sur ma conscience. Il commence à le comprendre. Donc, il peut m'aider et sauver ma vie gâchée. Ce jeune homme voulut d'abord faire appel au raisonnement et il ne sortit que des sottises. Mais lorsque sa conscience fut troublée, il commença à voir clair. Avez-vous compris à présent que pour parvenir à l'assurance du salut, cela ne sert à rien de s'attarder sur des questions épineuses comme celles auxquelles nous avons fait allusion? Non. Le seul moyen d'y arriver, c'est de donner raison à sa conscience, de s'écrier « Oui, j'ai péché ». À ce moment-là, le Sauveur crucifié apparaît et l'on sait que les péchés sont pardonnés. Le chemin du salut passe par la conscience et non par le raisonnement. Si l'on veut obtenir cette certitude, il faut être prêt à courir un risque. Je m'explique. Voyez-vous, la plupart des églises ont de magnifiques vitraux multicolores. Lorsque vous les observez de l'extérieur, même en plein jour, ils semblent obscurs et vous ne distinguez pas grand-chose des couleurs. Mais dès que vous pénétrez à l'intérieur de l'église, les couleurs prennent une vie merveilleuse, des couleurs magnifiques, et il en va de même pour la foi chrétienne. Voyez-vous, la foi chrétienne vue de l'extérieur, elle semble souvent obscure et hermétique. Mais il faut entrer, c'est-à-dire se hasarder à faire le pas vers Jésus-Christ. Il faut se donner au Sauveur et lui faire confiance. Alors, tout va s'éclaircir. C'est le pas de la mort à la vie. Et l'on saisit en un clin d'œil toute la beauté du christianisme. Un jour, Jésus-Christ prêchait et des milliers de personnes l'écoutaient. Soudain, il leur fit comprendre qu'à moins d'un changement radical dans leur vie, opéré par Dieu lui-même, ils ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Et là-dessus, quelques hommes et femme se lèvent en disant « Venez, partons, car il exagère. Nous ne pouvons accepter ce qu'il dit. » Et, tout simplement, ils s'en vont. Quelques femmes, les ayant vues se lever et partir, décident de suivre leur exemple. Et puis c'est le tour d'une bande de jeunes de leur emboîter le pas. Finalement, toute la foule commence carrément à se disperser. Cela a dû être terrible. Imaginez que je sois en train de prêcher et que mes auditeurs se mettent à un moment donné à quitter la salle les uns après les autres. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé seul. Des milliers de personnes s'en sont allées pendant qu'il parlait, ne voulant plus l'écouter. Il ne reste que les 12 apôtres. Si j'avais été à la place du Seigneur Jésus-Christ, j'aurais dit à ceux-ci, « Oh, je vous en supplie, vous ou moins, je vous en supplie encore, restez avec moi. Vous, mes fidèles compagnons, ne m'abandonnez surtout pas. » Mais voyez-vous, Jésus-Christ réagit tout autrement. Vous savez ce qu'il leur a dit? Voici ses paroles. Vous pouvez aussi partir si vous le voulez. Dans le royaume de Dieu, la contrainte n'existe pas. C'est le seul royaume où il n'y ait pas de police. Il y règne une véritable liberté de choix. Vous pouvez aussi partir si vous le voulez. Voilà ce que Christ dit à ses disciples. Et ceux-ci durent être tiraillés quand 6000 personnes partent. On est tout de même tenté de faire comme eux. Les disciples auraient sans doute aussi aimé suivre le mouvement, surtout que Jésus-Christ leur en laissait la possibilité. Vous pouvez partir. La porte était grande ouverte. Si vous le voulez, vous pouvez vous perdre, tout simplement. Vous pouvez choisir de vivre sans Dieu. Vous pouvez courir droit en enfer. Mais l'apôtre Pierre se met à réfléchir. Voyons, où pourrais-je aller? Où donc? Me plonger dans le travail et trimer jusqu'à la fin de mes jours? Me vautrer dans la fange du péché et me trouver en fin de compte face à la mort et à l'enfer? Cela n'a aucun sens. Et puis son regard s'arrête sur Jésus-Christ. Et il est absolument certain d'une chose. Seule une vie menée avec Christ vaut la peine d'être vécue. Et lui dit donc ceci. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu, ce qui équivaut, chers amis, à nous avons maintenant la certitude que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous resterons avec toi. Nous pourrions dire maintenant Alléluia. Mes amis, c'est ainsi qu'on acquiert une certitude. On examine les chemins qui s'ouvrent devant soi et l'on arrive à la conclusion que Jésus-Christ est notre seule chance de salut. Je vous souhaite de parvenir à la glorieuse certitude des disciples. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je voudrais m'adresser particulièrement à ceux d'entre vous qui ont fait le premier pas de la foi, qui ont livré leur vie à Jésus-Christ, mais qui se disent « Oh, je n'ai pas l'assurance du salut. Comment puis-je l'obtenir ?» Il y a encore tant de péchés dans ma vie. Voici ce que je voudrais vous dire. Pensez-vous qu'il faille attendre de ne plus jamais pécher pour enfin avoir l'assurance du salut? Dans ce cas, il vous faudrait patienter jusqu'à ce que vous soyez au ciel. Jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai besoin, croyez-moi, du sang versé de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Vous vous rappelez sans doute l'histoire du fils prodigue qui rentra à la maison en disant « J'ai péché ». Son père le serra dans ses bras et lui fit une grande fête. Maintenant, imaginez la scène suivante. Le lendemain matin, il fait tomber par mégarde sa tasse de café sur le sol. Car voyez-vous, il avait perdu l'habitude de manger à table là-bas chez les cochons. Aussi au moment donc où il entend sa tasse se briser, et c'était une tasse très chère de Sèvres, de la manufacture de porcelaine, eh bien, elle s'est brisée en morceaux. Il se met à jurer, malédiction, elle m'a échappé des mains. Son père va-t-il le mettre à la porte et lui dire « Va-t'en, retourne à tes cochons !» Jamais de la vie. Il dira au contraire « Accepter, c'est accepter. J'ai accepté mon fils qui est revenu des cochons tel qu'il était. » Et il ajoutera peut-être en se tournant vers son fils, « Mon garçon, il faut tâcher de ne pas le refaire trop souvent. On luttera ensemble pour que tu laisses les tasses de café, surtout s'ils sont de la manufacture de Sèvres, sur la table. » Évidemment, en ce temps-là, il n'y avait pas cette manufacture. Vous comprenez bien que je fais seulement une allusion. Donc, il était maintenant réhabitué, peu à peu, aux coutumes de la maison. C'était fini le temps des cochons. Mais il ne le renverra pas, son père jamais, ne le renverra chez les cochons. Lorsque un homme livre sa vie à Christ, il ne tarde pas à faire la triste découverte que sa vieille nature n'a pas disparu et qu'il lui arrive encore de succomber au péché. Lorsque, après votre conversion, vous essuyez une telle défaite, ne désespérez pas, mais jetez-vous à genoux et dites trois choses à Dieu. Premièrement, merci Seigneur de ce que je n'appartiens toujours, que je t'appartiens vraiment encore aujourd'hui, toujours. Et deuxièmement, pardonne-moi Seigneur en vertu de ton sang versé pour moi. Et troisièmement, libère-moi Seigneur de l'emprise de ma vieille nature. Mais avant tout, dites-lui votre reconnaissance pour le fait que vous êtes toujours, oh oui, vous êtes encore toujours son enfant. En somme, l'assurance du salut me permet de dire « Je suis revenu à la maison, je suis revenu chez mon Père, je mène le combat de la sanctification comme un fils qui est rentré définitivement chez lui et non pas comme quelqu'un qui est mis à la porte » et qui doit revenir après chaque bêtise. Ceux qui prêchent qu'il faut se réapproprier le salut quotidiennement annoncent un message effroyable. Mes enfants, mes propres enfants, moi j'en ai pas personnellement, mais vous sûrement, eh bien vos enfants n'ont pas besoin de se présenter chaque matin à votre bureau pour vous demander « Papa, pouvons-nous aujourd'hui redevenir tes enfants ?» Non, ce sont vos enfants. Et celui qui est enfant de Dieu l'est également pour de bon et il mène sa lutte contre le péché en étant et restant toujours l'enfant de Dieu. Je vous souhaite à tous d'acquérir la glorieuse certitude que vous êtes vraiment enfants de Dieu. Deuxièmement, de nombreuses personnes pensent que la religion est une affaire strictement personnelle. La plupart des gens le pensent, mais ont-ils vraiment raison ? Le christianisme en particulier revêt-il ce caractère privé? Ou pour préciser la question, la foi ne regarde-t-elle que celui qui croit? Avant de donner une réponse, je vous poserai une question toute simple. Toute pièce de monnaie à deux faces, et il en va de même pour la foi chrétienne. Si elle est authentique et vivante, elle a deux faces, un côté strictement personnel et un côté notoire et public. Si l'un de ces aspects est absent, elle prête au soupçon. Examinons ces deux faces de la foi authentique qui est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas la religion, mais la foi chrétienne qui a un côté strictement personnel. Pour illustrer cela, je vais commencer par vous raconter une histoire. Quelqu'un m'a un jour dit que je racontais beaucoup d'histoires. Je lui ai répondu « Il n'y a rien de déshonorant à cela. J'ai toujours très peur que les gens ne s'endorment à l'église. Aussi, si je leur raconte de temps en temps une anecdote, cela les tient éveillés. Toute notre vie est d'ailleurs tissée d'histoire et non seulement de théorie. Dans la région de Ravensberg, vivait au siècle dernier un prédicateur du nom de Johann Heinrich Falkening. Cet homme de Dieu fut à l'origine d'un puissant mouvement de réveil. Par sa prédication, toute la région fut complètement transformée. Au soir, Falkening fut appelé au chevet d'un paysan opulent. Celui-ci possédait une très grande ferme et avait une réputation d'homme honnête et travailleur. Mais il éprouvait une profonde aversion pour les cultes et les églises. En fait, ne voulant pas admettre qu'il était pécheur, il ne voyait pas pourquoi il aurait eu besoin d'un sauveur mort sur une croix pour lui. Son mot d'ordre était « bien faire et laisser dire ». Un jour donc, Falkening fut appelé à son chevet parce que le vieux paysan était mourant et qu'il voulait encore prendre la Sainte Cène. Falkening se rendit donc à la ferme. C'était un homme de haute taille, dont les yeux, d'un bleu étincelant, retenaient l'attention de tous. S'approchant du lit du paysan, il le regarde longuement, sans souffler un seul mot. Et puis il lui dit « Heinrich, je suis inquiet, très inquiet à ton sujet, car le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne mène pas du tout au ciel, comme tu le crois, mais ta route, ton chemin, te mène droit en enfer. » Et il se retourne et s'en va comme il est venu. Le paysan, rouge de colère, tempête, et c'est ce qu'on appelle un pasteur, il vient, il ne me console pas, et il s'en va en me traitant plus bas que Pierre. Et cela prêche l'amour de Dieu. Et puis la nuit tombe. Mais voyez-vous, le paysan, gravement malade, n'arrive pas à s'endormir, car sa conscience le tourmente, et il répète « Tu n'es pas en route pour le ciel, mais pour l'enfer. » C'est ce qu'il a bien entendu. Après tout, voyons, si ce sacré pasteur disait vrai, va savoir. Quantité de pécheurs lui reviennent à la mémoire, et surtout une quantité de péchés qu'il a commis lui-même. Et il n'a pas honoré Dieu comme il aurait dû, jamais. Et à l'occasion, il a su tromper les autres de façon très rusé. Les nuits suivantes, l'angoisse l'envahit. Il n'est plus tranquille. Tout d'un coup, il sait qu'il a commis une multitude de fautes dans sa vie et qu'il n'a vraiment aucune raison de penser qu'il est un enfant de Dieu, surtout qu'il a trompé sa chère femme qui a beaucoup travaillé avec lui, il l'a trompé avec une jeune fille. À présent, il aspire à faire demi-tour. Alors, tout angoissé, il dit à sa femme, « Va me chercher Falkening. » Il est tard dans la soirée, mais Falkening, malgré tout, il accourt immédiatement. Le paysan lui dit d'une voix très anxieuse, « Pasteur, je crois qu'il faut que je fasse demi-tour. Repentir, paniquer, repentir, inquiet. Il faut quelque chose de plus profond, lui dit le pasteur. Et il répète, repentir, paniquer, repentir, inquiet. C'est tout ce que tu es. Il faut quelque chose de plus profond. Et il se retourne et s'en va comme il est venu. Le paysan est vraiment maintenant en colère comme jamais. Cela vous aurait aussi mis en rage, n'est-ce pas, chers amis? En fin de compte, n'aurait-il pas mieux valu que Falkening se montre plus aimable avec le paysan, car cet homme n'était plus qu'à deux doigts de la mort? Mais voyez-vous, Falkening vivait dans l'intimité de Dieu. Il savait donc ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et trois jours plus tard, une détresse accablante envahit le paysan. Il sait maintenant que sa dernière heure est venue. Sa dernière heure est à la porte. Et il se demande, dans ma vie, quelle place y a-t-il eu pour l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi? Tout au long de sa vie, il a méprisé le Sauveur qui est mort pour lui. Il l'a repoussé chaque fois que, dans son amour, celui-ci s'est présenté à lui. Il se voit maintenant à un doigt de l'enfer, désespéré. Aussi, il implore sa femme, « S'il te plaît, va me chercher le pasteur. » « Non, lui répond sa femme, « je n'irai plus. De toute façon, cela ne servira à rien. » Alors, il répète, « Je t'en supplie, femme, va le chercher, car je sais maintenant que je vais en enfer. » Alors, elle s'exécute. Et lorsque Falkening arrive, il trouve un homme qui a compris ce que veut dire cette parole. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et il approche une chaise du lit et demande, « Tu vas droit en enfer, et tu le sais. » « Oui, je sais que je vais en enfer. » La voix de Falkening devient suppliante. « Heinrich, dit-il, est-ce que tu es d'accord d'aller ensemble au calvaire? Car là, Jésus-Christ est mort aussi pour toi. » Et il lui parle d'un ton bienveillant de la façon dont Jésus-Christ sauve l'homme pécheur. D'abord, il faut que nous prenions conscience de notre état de péché, que nous cessions de répéter « bien faire et laisser dire » et que nous nous en tenions à la stricte vérité. Alors seulement Jésus-Christ peut nous accorder son salut. Tout d'un coup, le paysan a compris. Donc Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Il a expié mes péchés. Il peut me justifier en m'offrant la seule justice acceptable aux yeux de Dieu. Et pour la première fois de sa vie, il prie maintenant vraiment avec son cœur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Seigneur Jésus, sauve-moi maintenant de l'enfer. Falkening peut maintenant s'éloigner sans faire de bruit. Il peut maintenant partir tranquillement, car cet homme invoque le nom du Sauveur. Or, il est dit 3 fois dans la Bible, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera perdu. » Eh bien non, vous avez mal entendu, heureusement. Je répète, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, gloire à Dieu. » Et le lendemain, lorsqu'il revient le voir, il trouve un homme en paix avec Dieu. « Comment vas-tu, Heinrich ?»« Eh bien, il m'a accepté, le Seigneur, par sa grâce infinie. » Oui, un miracle a eu lieu. Telle est donc l'histoire de la conversion de ce paysan orgueilleux. Et maintenant, je vais vous en raconter une autre. Un juif érudit vint une nuit auprès de Jésus-Christ et lui dit « Maître, je voudrais discuter avec toi de questions religieuses. » Et Jésus-Christ lui répondit, « Ici, on ne discute pas. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment cela ? » répliqua le visiteur. « Je ne peux pourtant pas retourner dans le ventre de ma mère et naître une seconde fois. » Mais Jésus-Christ reste sur ses positions. « Vois-tu, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est là le côté strictement personnel de la foi chrétienne. Il faut que l'homme parvienne à la vie en entrant par la porte étroite, en naissant de nouveau par l'action miraculeuse du Saint-Esprit. » Il ne s'agit pas là de futilité théologique. Oh non, il en va de votre sort éternel. Il se pourrait qu'au moment de votre mort, il n'y ait pas de Falkening à votre chevet. Vous feriez donc bien de m'écouter. Naître de nouveau suppose que j'ai fini par donner raison à Dieu et admettant que je suis un homme perdu, que mon cœur est mauvais. Naître de nouveau, voyez-vous, suppose que je reconnais avoir besoin de Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Naître de nouveau suppose de ma part une confession honnête de mes péché. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Naître de nouveau suppose de ma part un acte de foi. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Il a payé ma dette et me justifie en m'offrant la seule justice acceptable aux yeux de Dieu. Naître de nouveau suppose de ma part le don total de ma vie à Christ et naître de nouveau suppose que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, ou pour employer le langage biblique, qu'il m'a marqué de son sceau. Sans cette nouvelle naissance, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, mais celui qui est devenu enfant de Dieu en est sûr et certain. Voyez-vous, chers amis, la nouvelle naissance n'est pas la fin de l'expérience du chrétien, elle n'en est que le commencement. Or, tout le long de sa vie, sa foi gardera ce cachet strictement personnel. À partir du moment de ma conversion, j'ai su qu'il était indispensable d'écouter chaque jour la voix de mon nouvel ami. Je me suis donc mis à lire la Bible. Les gens s'imaginent de nos jours que seuls les pasteurs font cela. Près de chez moi, il y a un jardin public, et c'est là que j'aime aller quand il fait beau, le matin, pour lire ma Bible en faisant les 100 pas. Les gens qui habitent dans les parages m'observent parfois. Et l'un d'eux me dit l'autre jour, « Je vous vois chaque matin lire votre bréviaire. » Mais cet homme ne pouvait concevoir que je lise un livre que n'importe quel laïc pouvait lire également, se le procurer même tout de suite. Contrairement à l'avis général, la Bible est un livre pour tout le monde. Lorsque vous refermez votre Nouveau Testament, joignez les mains et dites simplement « Seigneur Jésus-Christ, maintenant il faut que je te parle. » J'ai tant de choses à faire. Aide-moi à tout mener à bien. Préserve-moi de mes péchés favoris. Donne-moi de l'amour pour les autres et remplis-moi de ton Esprit Saint. Priez simplement, parlez à Christ, car il est là et il vous entend. La prière est aussi un aspect personnel de la foi chrétienne. Il y a quelque temps, je disais à un homme qui venait de se convertir, « Vous avez chaque jour besoin d'un quart d'heure de recueillement en la présence de Christ. » Sur ce, il me répondit, « Oh, mais moi, je ne suis pas pasteur comme vous. » Vous avez le temps pour cela, mais pas moi. J'ai un programme beaucoup trop chargé. » Écoutez-moi bien, répliquai-je. Vous n'arriverez jamais à tout finir, n'est-ce pas? En effet, je n'y arriverai jamais. C'est ce qu'il a avoué. Eh bien, voyez-vous, cela provient du fait que vous n'avez pas votre quart d'heure de recueillement. Si vous preniez l'habitude de parler chaque matin à Jésus-Christ, de lire de façon suivie seulement quelques versets de l'Évangile et de prier ensuite, vous verriez que c'est un jeu de venir à bout de tout votre travail malgré tout. Oui, plus vous aurez à faire, plus vous aurez besoin de ce moment de recueillement. Le quart d'heure deviendra peut-être un peu plus à la longue pour que vous ayez le temps d'apporter au Seigneur tout ce qui vous préoccupe. Mais vous verrez du coup tout ira beaucoup mieux. Ce moment passé en la présence de Christ est donc un des aspects du côté strictement personnel de la vie chrétienne. Un autre est ce que la Bible appelle la crucifixion de la chair. Au fil des années, j'ai parlé à un grand nombre de personnes et presque toutes m'ont présenté leurs griefs et doléances. Les femmes se sont plaintes de leurs maris et les maris de leurs femmes. Les parents ont maugré contre leurs enfants et les enfants contre leurs parents. Mais ils n'ont pas songé une minute qu'en montrant quelqu'un du doigt pour dire « c'est de sa faute ». Si je ne suis pas heureux, c'est ce qu'ils font tous, c'est toujours la faute aux autres. Ils pointaient trois doigts vers eux-mêmes, ça serait peut-être plus honnête, mais ils ne le font pas. Si vous avez régulièrement votre moment de recueillement, vous verrez que Jésus-Christ ne tardera pas à vous montrer que vous êtes vous-même responsable de vos malheurs et vos ennuis conjugaux ou familiaux sont dus au fait que vous ne vivez pas sous le regard de Dieu. Le chrétien doit apprendre à crucifier chaque jour sa vieille nature. Avez-vous bien compris? Si vous vous recueillez régulièrement en la présence de Christ, vous apprendrez, vous allez apprendre à votre tour à crucifier chaque jour votre vieille nature. Et vous verrez les choses s'arranger autour de vous. Ceci fait partie du côté strictement personnel de la foi du chrétien. Et si vous ignorez tout de cet aspect de la vie chrétienne, je vous en prie, cessez de vous dire chrétien, car vous ne l'êtes pas, vous l'êtes simplement dans le sens religieux, c'est tout. Souvent, en marchant dans la rue, je raisonne ainsi. Les gens que je croise se disent tous chrétiens et tous pensent être chrétiens parce que leurs grands-parents étaient chrétiens ou parce qu'ils vont à la messe de minuit à Noël. J'ai lu dernièrement à des jeunes un magnifique passage de la Bible. Pour vous qui craignez mon saint nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est une allusion prophétique à Jésus-Christ. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est beau, n'est-ce pas? Je répète. Pour vous qui craignez mon saint nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et le texte continue. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est admirable, mais je rencontre rarement des chrétiens qui, dans leur joie d'appartenir au Seigneur, sautent comme des veaux d'une étable. Pour quelle raison ne ressentons-nous pas cette joie? La réponse est très simple. Nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Nous sommes simplement un peu religieux. Je ne peux m'empêcher de penser à ma mère, car chez elle, on voyait s'extérioriser cette joie intense dans le Seigneur. Telle est donc la première face de la foi chrétienne, son côté strictement personnel. Mais il y a aussi l'autre face. Une foi authentique et vivante a un côté notoire et public, eh oui, que tout le monde devrait pouvoir voir. Et cet aspect-là de la foi chrétienne est d'abord lié au fait que le chrétien participe à la communion des croyants. Il s'agit là d'un point très important. Le vrai chrétien se joint à ceux qui aspirent eux aussi au salut final. Il y a le culte chaque dimanche. Pourquoi n'y assistez-vous pas? Mais je l'écoute à la radio, me répondrez-vous? Je ne parle pas des malades et des infirmes et de ceux qui, comme moi, ont plus de 80 ans ou bientôt 90 ans. Non, je parle pour vous qui pouvez vous remuer normalement. Oui, je parle pour vous. Pour vous, ça ne doit pas être simplement le culte à la radio. Mais votre christianisme ne va pas très loin si vous n'avez pas envie de participer au vrai culte, au rassemblement des croyants. Le culte fait partie intégrante d'une vie chrétienne authentique. C'est cela, croyez-moi, qui est important à vous souvenir pour le reste de votre vie. Chers amis, il y a différentes possibilités de se rencontrer entre croyants. Il y a l'Église, les études bibliques dans les foyers, et les cellules de prière, les groupes de jeunes, etc. Un jour, un Français me disait « Les uns aiment manger des harengs et les autres aiment aller à l'église. » Désolé, mais ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus sérieux que cela, ai-je dit. Voyez-vous, cher ami, les uns vont en enfer en mangeant des harengs et les autres recherchent la communion des croyants. Voilà la réalité absolue. Oui, chers amis, c'est sérieux, tout cela. Jésus-Christ disait « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père céleste qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce sera tragique au jugement dernier de voir de soi-disant chrétiens, simplement religieux, se lever et dire « Seigneur Jésus, nous avons cru en toi », alors que Jésus-Christ, se tournant vers son Père, s'exclamera « Je ne les ai jamais connus ». Mais Seigneur, j'étais pourtant quoi ? Je ne te connais pas, sera la réponse. Ton voisin n'a jamais su qu'il courait droit en enfer. Tu ne l'as pas averti, alors que tu connaissais toi-même le chemin qui conduit à la vie éternelle. Tu t'es enfermé dans le mutisme à chaque fois que tu aurais dû ouvrir la bouche et prendre position pour moi. Oui, mais ma foi, la foi que j'ai, est si faible. Cette excuse-là ne vous portera pas très loin. Croyez-moi, chers amis, quand aurons-nous le courage d'ouvrir la bouche et de parler de notre foi en Jésus-Christ. Nous allons terminer maintenant par la prière et je voudrais vous donner un petit mot d'encouragement que l'Esprit-Saint me donne dans mon cœur pour vous. Il est dit dans saint Matthieu au chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Quiconque se dépense vraiment pour le royaume de Dieu ne peut faire autrement qu'attendre du Père Céleste, dans la confiance de l'enfant, tout ce qui lui est nécessaire pour vivre. Et il vit pour Dieu, dépendant de lui et de son secours. Confie-toi donc sans limite au Père Céleste dans toutes les situations, détresse et face à tous les dangers. Il ne te décevra jamais, mais te comblera de tous les biens si tu vis entièrement pour Jésus-Christ et pour son royaume. Prions maintenant ensemble. Seigneur, tu appelles tous les peuples à la communion de ton royaume. Fais naître en nous la foi véritable. Garde-nous de nous confier en nos propres mérites et de chercher notre salut dans les œuvres de la loi, alors qu'il se trouve seulement avec la joie que le monde ne peut ni donner ni ôter. En ton Fils Jésus-Christ se trouve la véritable joie et la foi. Rends-nous fermes dans cette assurance pour porter des fruits à ta gloire. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Il vous aime vraiment, sincèrement, absolument. Il désire votre salut pour l'éternité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et j'espère que vous continuerez à vous y intéresser. À bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.